Bon, bah, je te laisse meubler. Ah bah,
Parle pas mal, Pauline.
Alors,
C'est pas
meublé, chaise, table,
Mais
armoire.
c'est pas en direct.
Allez, ça va toi? Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de un podcast trans. Contrairement aux habitudes, on va avoir de manière proéminente un personnage qui n'est pas trans à l'antenne. Mais pour compenser, elle n'aura pas la parole.
C'est vrai que ce sera la première meuf 6 à l'antenne, du coup.
Ouais. En tout cas, qui prend autant de place. Ce soir, on est juste trois. Il y a moi, Jenna.
Et il y a Pauline, ici.
Oui, moi, c'est Niléane aussi.
Voilà, donc c'est équipe restreinte. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire cet épisode sur un personnage de Star Wars qui s'appelle Ahsoka Tano. Et du coup, il y a juste les personnes autour du micro qui ont des choses à dire sur le personnage. Parce que sinon, il fallait d'abord leur faire un cours et tout, et c'est compliqué. Donc, on va faire ce cours pour vous. Et avant ça, on va vous prévenir. Si vous ne voulez pas de spoiler sur Clone Wars, Rebels ou Mandalorian, vous allez pouvoir avancer en accéléré jusqu'à 20 secondes de la fin de l'épisode, au moment où on vous dira au revoir. Parce que globalement, on va vraiment passer beaucoup de temps à détailler des choses qui sont révélées à l'écran. Donc si vous les avez pas déjà vues, ne vous divulgâchez pas les séries. Introduction, pourquoi on est là? Alors, pourquoi on est là?
Ah, on est là parce qu'on kiffe Ahsoka Tano, je crois.
On est d'accord?
On est d'accord.
Ouais.
La société secrète des gens qui aiment bien Ahsoka Tano.
Mais c'est peut-être pas tout.
Puis j'ai l'impression que ce club, il est de plus en plus grand. C'est clairement un personnage, quand il a été introduit, où il y a eu un backlash contre l'introduction d'un personnage féminin dans Star Wars, et qui est devenu un personnage qui est à peu près unanimement aimé et respecté.
Oui, et je crois que justement, c'est pas rare que parmi les meufs trans, et même plus largement les personnes trans, c'est un personnage qu'on kiffe.
Effectivement. Donc pour vous présenter ce personnage, est-ce qu'on le fait de manière chronologique de narration ou chronologique de sa biographie?
Ça, c'est le typique débat dès qu'on parle de Star Wars.
Effectivement.
Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'on va suivre la vie du personnage.
Ouais. Je trouve qu'en préambule, c'est un truc à signaler. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu dans aucun des films de Star Wars.
Oui.
Dans aucun des 9 épisodes. À l'exception d'une demi-seconde uniquement audio à la fin du 9e épisode. Et comme ça, on vous aura aussi spoilé un des films. Enfin, c'est pas un moment important, mais... C'est pas un film important. Bref.
Dans le prochain hors-série, je contredis Jenna. Promis.
Avec plaisir. Et ben, on peut commencer par l'enfance du personnage. C'est un personnage qu'on voit pour la première fois. Elle a
14 ans, je crois.
Ah, moi j'aurais dit plus tôt. J'aurais dit 3 ou 4 ans.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a les flashbacks. Oui, c'est vrai.
Il y a
t'as
un flashback
raison.
Où on la voit. Elle est à peine plus grande que Baby Yoda. Elle sait
oui.
marcher. Elle a deux très grands yeux. Et elle regarde avec un léger sourire un maître Jedi qui se penche vers elle et qui s'agenouille à ses côtés. C'est maître Plo Koon, qui n'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui, a priori, vient la chercher dans sa famille, si ma mémoire est bonne.
C'est à peu près ça. Parce qu'il faut se rappeler que les Jedi, c'est une secte assez violente qui embarque les enfants.
Ouais. Qui les embrigade très très tôt, avec une forme de logique qui est que s'ils ont le moins d'attachement possible pour éviter de manière un peu brutale toute forme d'attachement humain ou de jalousie, pour éviter les sentiments négatifs qui vont avec. Alors en tant que militante polyamoureuse, je trouve que c'est un peu radical et que ça fonctionne pas beaucoup.
Manifestement. Mais du coup, après ça, elle devient très très vite donc une padawan.
Ouais, donc on suppose 10 années d'apprentissage et de croissance dans le temple Jedi.
Oui.
Où elle est, je suppose, en classe avec, entre autres, Yoda. Et après ça, Yoda l'assigne comme padawan à Anakin Skywalker, alors qu'Anakin Skywalker a dit explicitement qu'il n'avait pas vraiment envie d'avoir de padawan.
Mais c'est fait exprès, peut-être. Pour l'embêter.
Ce soir, dans le rôle de Yoda. Et a priori, le but de Yoda est d'essayer de rendre Anakin responsable de quelqu'un et d'être un peu moins tête brûlée.
Ça non plus, ça marche pas très bien, je trouve.
Alors, la tête brûlée...
Et le problème, c'est qu'il il transmet plein de choses à Ahsoka et pas forcément les bonnes choses.
Oui. Oui, il lui transmet un peu son arrogance, sa forte indépendance aussi dans les décisions, mais surtout de l'arrogance par rapport justement à la hiérarchie.
Ça en fait un personnage super intéressant par rapport à d'autres Jedi qu'on voit grandir, enfin des Padawan. Je pense à Barriss, une Padawan qu'on voit dans Clone Wars aussi, que je trouve très attachante aussi.
Mais qui est très sage en comparaison.
Ah, mais qui est vraiment élevé dans une obéissance absolue à sa maîtresse et aux idéaux Jedi. Et puisqu'on est là pour tout spoiler, cette obéissance aux idéaux Jedi, ça va jusqu'à une sorte d'intégrisme qui l'a fait s'élever contre le conseil Jedi parce qu'elle a un trop grand respect des idéaux Jedi. Et Ahsoka, elle apprend ça un petit peu à ses dépens. Plus tard, en fait. On en est déjà là. Non, je voulais dire un truc sur Anakin et Obi-Wan. En fait, elle devient la Padawan d'Anakin peu après que Anakin soit émancipé du Padawina d'Obi-Wan. Mais ça reste en fait le frère d'Obi-Wan. C'est-à-dire qu'ils ont finalement été élevés ensemble, ils sont très proches l'un de l'autre. Et ils continuent à avoir énormément de missions ensemble, etc. Et du coup, quand Anakin devient le maître d'Ahsoka, elle a un peu ces deux figures paternelles. Anakin et Obi-Wan, et Anakin et Obi-Wan pour moi sont un très très mignon couple gay qui ont la responsabilité de cet enfant. et pour moi Obi-Wan, enfin il a vraiment cette, particulièrement dans Clone Wars, cette flamboyance, la petite mèche rebelle. Il est particulièrement parfait en daddy.
Le mot est lâché, daddy.
Ouais. Et du coup voilà, c'est une très très belle cellule familiale, tous les trois, à prendre soin les uns des autres. Au fur et à mesure que Ahsoka grandit, commence à sauver ses deux pères. C'est pas seulement à sens unique, quoi.
Oui. Mais on en parlait une fois et tu parlais du fait qu'on voit sa puberté dans ce cercle et au cours de la longue série qui est Clone Wars. Et ça aussi, c'est assez unique. Et c'est quelque chose dans laquelle on peut facilement s'identifier.
En fait, Clone Wars, c'est particulier. C'est une série qui, d'un point de vue de la narration, il y a 7 saisons d'une vingtaine d'épisodes qui se passent sur un temps très court entre les épisodes 2 et 3. Bah, c'est la durée de la guerre des clones.
Oui, oui.
Même physiquement, entre l'arrivée d'Ahsoka, où elle doit avoir, je sais pas, 13-14 ans, et la fin de Clone Wars, où elle doit avoir 16-17 ans, il y a vraiment une maturation physique aussi. Elle est plus grande, elle est plus forte, à la fois physiquement et techniquement, et psychologiquement. Il y a une émancipation. Et s'identifier à un personnage comme ça, c'est plus facile quand on voit quelqu'un grandir et grandir bien. Et je pense qu'enfin on aura l'occasion d'en reparler. J'ai l'impression que ce podcast va être très long. On arrive sur la fin de Clone Wars.
Bah du coup, parler de son détournement de l'ordre Jedi.
Tu veux raconter ?
Oui, alors peut-être ma mémoire est floue, mais je suis sûr que tu t'en souviens de plein de détails, toi. Donc en gros, il y a un bombardement, il y a un attentat sur le temple Jedi,
ouais,
par une série d'indices implantés de mauvaises circonstances. C'est Ahsoka qui est accusée par l'ordre Jedi. Quand je dis implanté, c'est qu'évidemment il y a Palpatine derrière qui fait des trucs. Voilà, bon.
Spoilers.
Et donc Ahsoka, elle est accusée par le conseil de l'ordre Jedi. Et voilà, elle le prend extrêmement mal, parce qu'on découvre que c'était pas elle, etc. Mais le mal était fait, parce qu'elle avait été emprisonnée, elle avait été humiliée, elle avait été jugée, etc.
Elle a été, en plus, alors que les Jedi demandaient à ce que ce soit une affaire interne, parce que c'est entre Jedi, c'est une apprentie Jedi, et l'attentat est contre le temple. Le conseil Jedi demande à ce que ce soit juste une affaire disciplinaire en interne. Et du coup, Ahsoka est livrée à l'armée pour ce procès, et ça aussi elle le vit très mal, c'est vraiment un abandon de la part de l'ordre Jedi, et la seule personne en qui elle peut encore compter manifestement, c'est Anakin, qui est la seule personne qui la défend, la seule personne qui croit en elle. Et c'est probablement fait exprès, parce que peut-être que Palpatine n'est pas quelqu'un de bien,
mais ça... Spoilers.
Ça crée aussi un rift entre Anakin et le reste du conseil, qui voit comment... Si Ahsoka, qui a toujours été aussi loyal peut être traité comme ça, n'importe qui peut être traité comme ça. Ça approfondit le personnage d'Anakin, ça explique pourquoi, dans l'épisode 3, Anakin voit comment il est traité de manière injuste, enfin il ressent être traité de manière injuste par le conseil.
Et ça oui, pour lui, c'est pas du tout la première fois que c'est un problème, ce genre de choses, quoi.
Exactement. Une fois qu'elle est,
oui, fait, elle
est innocente et grâce à Anakin qui trouve qui a vraiment fait l'attentat.
Oui, et elle se barre, c'est ça?
Et elle décide de quitter l'ordre.
Oui.
L'ordre lui propose de revenir, même lui présente des excuses, et en fait elle n'a plus confiance et elle décide de partir. Et c'est une scène qui est déchirante. Mmh. Il faut imaginer la majesté du temple Jedi. Ahsoka qui part à pied, qui a remis ses sabres, Anakin qui court derrière elle pour la rattraper, qui lui rend la petite tresse qu'elle portait, ça lui avait été arraché en symbole d'éjection de l'ordre, et Anakin lui propose de retrouver sa tresse, et elle lui referme la main plutôt que prendre la tresse. Et elle part, et on sent qu'elle est triste, mais on sent que Anakin, il est anéanti par ça, en fait. Il est en train de pleurer seul avec cette tresse dans la main. Et c'est la fin de l'épisode. De la saison, en fait.
Oui, mais après, du coup, il y a la saison 7 où on voit que quand elle s'est parée, en fait, bah, elle est partie un peu dans les profondeurs de Coruscant, un peu en exil, où elle a une sorte d'activité un peu dormante. Elle se démerde, j'ai envie de dire. Elle se démerde un peu dans son quotidien un peu difficile, du coup, où elle n'a plus trop de moyens. Mais très vite, elle va quand même se retrouver à nouveau dans les affaires. On va zapper un peu direct au moment où elle revoit Bo-Katan. Bo-Katan, pour présenter très rapidement, donc c'est une Mandalorienne qui est très importante, qui aura un rôle de leadership pour les Mandaloriennes. Et donc là, dans cette saison 7, donc après le départ d'Ahsoka de l'Ordre Jedi, elle se croise et donc Bo-Katan a besoin de son aide par rapport à Dark Maul. Donc oui, il y a Dark Maul et tout, il y a tout un tas de trucs.
Spoilers.
Oui. Mais bon, on va pas entrer dans Dark Maul. Ce que je voulais dire, c'est surtout que Bo-Katan, c'est super intéressant parce qu'il y a une relation entre les deux et aussi il y a une ressemblance entre les deux par rapport au rapport qu'on peut avoir avec les deux personnages. C'est-à-dire que bah, Bo-Katan, encore, c'est un personnage féminin qui pèse, tout comme Ahsoka. Bon, même si Bo-Katan, c'est un personnage beaucoup plus mature, mais qui est quand même assez complexe, c'est à ce moment-là aussi que ces deux personnages se croisent.
On fera un épisode spécial sur Bo-Katan, je pense, d'ici la prochaine saison de Mandalorian.
A little longer than a few minutes later. Elle se trouve sur un croiseur de la République quand il y a l'Ordre 66. L'Ordre 66, donc c'est ce qu'on voit dans l'épisode 3.
Et du coup, on se retrouve avec Anakin et Ahsoka face à face de nouveau. Et pour moi, c'est un autre moment déchirant. Anakin, il regrette encore très fort le départ d'Ahsoka. Ahsoka, elle est là pour parler d'autre chose, elle est là pour parler business. Anakin, il a envie de savoir comment elle a survécu, elle a envie de savoir comment elle va. Et Ahsoka, elle lui coupe la parole et elle lui dit « On papotera plus tard, là on a des trucs importants à régler quoi. » Et il est là comme un con. Ok. Et manifestement, c'est elle qui dirige la réunion maintenant.
Et c'est la dernière fois qu'ils se voient avant un moment. Parce que c'est à ce moment-là qu'Anakin il doit y aller, parce qu'il doit aller sauver le chancelier, donc Palpatine.
Parce que les indépendantistes ont commencé un assaut contre Coruscant, pile à ce moment-là.
Voilà. Et c'est là que l'épisode 3 commence. Du coup, le film La Revanche des Sith, c'est là que le film commence. Donc on a, dans La Revanche des Sith, on peut se dire qu'on a la perspective d'Anakin, et puis dans la saison 7 de Clone Wars, on a celle d'Ahsoka.
Ouais.
Et d'ailleurs, oui, c'est quelque chose que j'ai souvent pensé. Ça m'arrange justement que Clone Wars, ça a commencé un peu comme l'underdog des films, qui était extrêmement grand public, hein, il n'y a pas plus populaire comme film. Et Clone Wars, ça a commencé un peu discrètement comme une série pour gamins.
Ouais.
En gros. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit dans cette série qui était au second plan qu'il y ait les personnages féminins forts.
Oui.
Et qu'on ait leur point de vue, leurs aventures, etc. Et qu'en parallèle, dans le monde des garçons puissants, au cinéma, il y a le plus grand public. Et du coup, bah, justement, le fait que la saison finale de Clone Wars, elle soit littéralement en parallèle avec La Revanche des Sith, je trouve que ça résumait ça bien.
Oui, tout ça, c'est l'agenda féministe qui se révèle petit à petit.
Oui, mais du coup, au final, Clone Wars est devenu extrêmement populaire. Bon, c'est peut-être ouais, c'est d'une magnitude moindre, hein, mais que les films, mais quand
Moi, j'ai
même.
l'impression qu'il y a une réhabilitation où Clone Wars est maintenant plus apprécié que certains des films des prequels.
Oui, et du coup, ça a fait que les prequels elles-mêmes, les films, sont de plus en plus appréciés aussi, grâce à Clone Wars, parce que vu qu'il y a la perspective de Clone Wars qui enrichit un peu ce qu'on peut savoir sur les films, ouais.
Moi, je crois que ça a réhabilité Anakin, qui était vraiment quelqu'un de désagréable dans les épisodes 1 et 2, qui était enfin, une jeune tête à claque à qui tout réussit et à qui le monde est dû. Et le fait d'avoir cette relation autant creusée avec Obi-Wan, puis avec Ahsoka, dans Clone Wars, ça rend l'épisode 3 beaucoup plus attachant et ça rend sa chute beaucoup plus émotionnelle. Parce que sinon, bah,
Oui.
il était désagréable. C'était un connard comme on en a rencontré probablement toi et moi au collège et au lycée. C'était enfin, le mec qui nous tapait dessus, quoi. Et bizarrement, ce mec-là, il est devenu Darth Vader. Oh, quelle surprise, tu.
Bizarrement.
On appelle ça un petit con.
Oui, qui est devenu un grand con, quoi. Et donc, là, il y a l'épisode 3.
Il y a l'épisode 3.
Anakin devient Darth Vader. Et parallèlement, Ahsoka, à la fin de Clone Wars, de la vraie fin de Clone Wars maintenant, elle décide de simuler sa mort. Et c'est quelque chose qui est un peu détaillé aussi dans le roman et dans l'audiobook, qui s'appelle Ahsoka.
Oui, et le roman qui enchaîne dans la foulée les
Ouais,
événements.
et dont tous les événements se passent, donc juste après Clone Wars et juste après l'épisode 3, et qui finalement fait le lien avec la série Rebels,
Oui.
qui se passe bien 15 ans après.
Mais du coup, dans Rebels, donc on suit une bande, une cellule rebelle. On l'a aussi, on va pas détailler. Mais il s'avère qu'Ahsoka, elle est devenue. On est un petit peu avant l'épisode 4. Enfin, quelques années avant l'épisode 4. Donc il y a le rébellion qui commence à naître à peine. Voilà. Et à la fin de la série Rebels, on est prêt à enchaîner sur Rogue One, l'épisode 4, et c'est tout. Et du coup, Rebels, on suit l'une des cellules rebelles qui vont donner naissance à cette rébellion. Et il s'avère que Ahsoka, elle sert de.
En fait, elle est directrice de la communication interne dans
C'est
la
ça.
rébellion. C'est vraiment, c'est quasiment son poste officiel. La grande rébellion, c'est-à-dire celle avec Mon Mothma, avec
L'alliance, du coup,
Bail
les skips.
Organa. Ouais, l'alliance, elle est fondée par Bail Organa à la fin du roman Ahsoka. Il demande à Ahsoka de gérer la coordination des cellules rebelles. Donc elle est vraiment responsable de ça.
Ouais.
Et il y a une chouette révélation. Je crois à la fin de la saison 1 de Rebels, où jusque-là on avait de temps en temps une voix un peu robotique qui donne des informations à la cellule rebelle sous le nom de Fulcrum, et c'est seulement à la fin de cette première saison qu'on voit débarquer Ahsoka.
Fulcrum. Ahsoka. My name is Ahsoka Tano.
Et elle est adulte maintenant. Son leïku, c'est-à-dire sa espèce de queue de tête, sa coiffe blanche et bleue est devenue plus longue, elle est plus grande, elle a des nouveaux sabres laser qu'elle s'est construite pendant le roman. Et elle est super badass.
Qui sont blancs.
Oui, c'est la seule, a priori, dans tout l'univers Star Wars. Déjà, c'est une des seules à se battre avec deux sabres, déjà depuis qu'elle est adolescente, mais c'est la seule avec deux sabres blancs. Où il y a probablement une symbolique, mais je crois pas que ce soit abordé explicitement.
Du coup, là, Ahsoka, elle va aider pas mal le duo de Jedi qu'on a dans la série Rebels. Kanan Jarrus et Ezra Bridger, donc maître et apprenti. Ezra Bridger, c'est un gamin qui peut faire penser à Ahsoka par moment.
Et un peu à Anakin aussi.
Et un peu Anakin, c'est vrai. Et du coup, Ahsoka, parfois, elle pop. Elle n'est pas tout le temps là, hein, mais quand elle pop, elle fait ce rôle de Yoda, où elle a une perspective en plus sur les choses, et du coup, elle vient aider le duo sur pas mal de choses.
Elle montre une force et une sagesse qui permet de. Elle est parfois là en
Ouais.
Deus ex machina, en fait, ou à éloigner des ennemis qui sont trop puissants, et aussi à avoir des positions de sagesse que Kanan Jarrus, il peut pas forcément avoir parce qu'il a jamais fini son apprentissage de Jedi. Il était encore Padawan quand sa maîtresse est morte pendant l'Ordre 66.
Techniquement parlant, si je puis me permettre, Ahsoka non plus a jamais fini son entraînement.
C'est vrai.
Ok, un bon point.
C'est marrant parce que le truc de « Ah, mais il n'avait pas fini son apprentissage », ça s'applique à pas mal de personnages dans Star Wars. Genre Luke, qui soulève des boules pendant 10 secondes.
À propos de Luke, entre les épisodes 5 et 6, il a un apprentissage technique hors champ qui n'explique pas le bond en capacité qui s'opère entre les épisodes 5 et 6.
Ah, tu crois que ce serait Ahsoka ?
Notamment au début de l'épisode 6, quand il arrive dans le palais de Jabba, il convainc le portier de lui ouvrir, et il y a des gardes qui se précipitent vers lui, et il les étrangle avec la force.
Oui.
Et ça peut pas être Obi-Wan qui lui a appris un truc pareil, et ça peut pas être Yoda non plus. Et les seules personnes qu'on voit faire ça, c'est Anakin, Baby Yoda et Ahsoka.
J'allais le dire Grogu. J'étais sûre que t'allais pas dire Grogu, du coup j'étais prête à débarquer en mode « Et Grogu, évidemment
ouais. !» Alors Grogu, on ne sait pas où il est, mais il est peut-être un peu jeune pour apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et les autres, ils sont pas vieux, quoi. Donc ça pourrait être Ahsoka.
Et du coup, au cours de Rebels...
J'aime bien comment tu arrives à récupérer les tangentes.
Ah, dans Rebels, peut-être on peut passer direct au moment où Dark Vador, donc Anakin, découvre qu'elle est toujours en vie.
Ouais, et le moment où elle découvre que Anakin a survécu à l'Ordre 66.
Voilà.
Anakin, il a une phrase simple, parce que il a arrêté d'exprimer des émotions il y a longtemps, apparemment. Et il a juste cette phrase qui est « The Padawan lives ». Et il y a un petit peu de surprise, c'est « Oh ». Et par contre, Ahsoka, elle entend la voix, elle comprend, elle sent sa présence, et elle a un vrai... elle a un PTSD, quoi. Enfin, elle a un... Elle tombe
oui,
dans les pommes. Elle crie, et elle tombe dans les pommes.
The apprentice lives.
J'ai trouvé ça drôle à l'époque, que t'as Ezra qui la réveille, et elle est en mode « Ah ouais, non, t'inquiète, c'est... » J'étais allé réagir un peu comme ça. « Non, non, c'est... » Je pensais à un truc nul. Tu vois, c'est en mode, c'est très banal, elle balaye ça.
Oui.
Ahsoka, are you okay?
I am, thank you.
T'sais, elle vient de hurler, de s'évanouir, mais...
Je pensais à autre chose.
Ahsoka, do you know who or what he is?
No, I don't. But I do know that he will be coming.
Je pense qu'elle a pas envie d'y croire et là encore, ça le rendrait vrai d'en parler à d'autres.
Ouais.
Et du coup, elle n'en parle à personne. C'est autant de moments pour moi dans Clone Wars et dans Rebels où j'ai eu besoin de faire des pauses parce que j'étais en larmes devant l'écran. En fait. Bref, elle retrouve Anakin. Elle se retrouve face à Darth Vader. Et elle est la seule à lui tenir tête. Elle est celle qui se bat contre Anakin. Et elle survit. Des fois, c'est limite, mais elle survit.
May the Force be with you, Ezra Bridger.
Si ma mémoire est bonne,
ouais.
Au moment où Ezra, il dit à Ahsoka et à Sabine, « Come and find me. »
Oui.
When you get back, come and find me.
I will. I promise.
À la fin de Rebels, il faut savoir que donc il y a Ezra Bridger qui disparaît avec l'amiral Thrawn. Et donc dans l'épilogue de Rebels, on a des scènes qui se passent après la fin de la guerre contre l'Empire en fait. Donc après la bataille d'Endor. Et on a juste ce bref moment.
C'est Ahsoka qui vient chercher Sabine. Et Sabine comprend que c'est le moment d'aller chercher Ezra, d'aller essayer de sauver leur ami. Et je sais pas si on a l'information. Ou si tu sais, est-ce que ça se passe avant ou après Mandalorian ?
Alors c'est super intéressant parce que moi et à peu près tout le monde a été persuadé que ça se passait avant Mandalorian, que c'est parce que c'est genre direct après, on se dit que c'est direct après la fin, enfin la bataille d'Endor, genre juste c'est la fin de la guerre, du coup elle se barre.
Pour moi c'était après.
Mais on pourrait se dire c'est après, parce que dans Mandalorian, elle dit qu'elle cherche Thrawn, elle trouve des infos.
Now tell me. Where is Grand Admiral Thrawn?
Et donc là, ça y est, boum, elle peut juste aller chercher Sabine et l'emmener voir Thrawn.
Ça me semble plus crédible aussi en termes d'apparence du personnage.
Oui, parce que du coup, elle a cette longue robe blanche.
Et c'est la version Gandalf.
Exactement, la version Gandalf d'Ahsoka. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Filoni qui a donné une interview il y a 2-3 jours, là. Où, en fait, comme d'hab, c'est des réponses un peu vagues, mais là, c'est la moins vague que d'habitude. Où il dit, il insiste là-dessus dans l'interview, et il dit qu'il ne faut pas se fixer sur l'idée que cet épilogue se passe avant The Mandalorian.
Très bien, moi ça me suffit. D'abord parce que ça me conforte dans ce que je pensais être la chronologie des événements, et qui permet de ne pas craindre la mort d'Ahsoka pendant la série Mandalorian. Parce que c'est un petit peu ma frayeur.
Sachant que du coup, dans l'épisode 9, donc ça se passe 30 ans plus tard, on entend sa voix parmi les autres Jedi tous mourus. Donc à ce moment-là, elle est morte. Mais cela dit, c'est 30 ans plus tard.
Alors, il me semble qu'il y a eu une interview de Filoni qui disait « Je sais qu'on entend la voix d'Ahsoka, ça veut pas dire qu'elle est morte. »
Ok.
Ça peut être, de manière un petit peu libre, tous les Jedi qui sont passés avant, qu'ils soient vivants ou pas.
Oui. Oui, c'est vrai. Et justement, dans The Mandalorian, elle redébarque, ou plutôt on la revoit.
On va la chercher.
On va la chercher.
Encore une fois, en croisant Bo-Katan.
En croisant Bo-Katan. C'est Bo-Katan qui dit où elle se trouve. Et Bo-Katan dit à Din Djarin, à Mando, elle lui dit de dire que voilà, tu viens de ma part.
Where can I find the Jedi?
Take the Foundling to the city of Caladan on the forest planet of Corvus. There you will find Ahsoka Tano. Tell her you were sent by Bo-Katan.
C'est comme quand tu vas dans un bar que ton pote te recommande.
Dis-lui bien que c'est de ma part que tu viens, sinon elle va te latter ta race.
Ça, c'était pas dit clairement, mais c'est le sous-texte.
C'est vrai.
Ouais. Et bah, manifestement...
Sachant qu'elle lui latte sa race, almost, quand il débarque.
Mais oui, et qu'il a bien fait de mentionner Bo-Katan, parce que je donnais pas cher de sa peau.
Ahsoka Tano! Bo-Katan sent me. We need to talk.
I hope it's about him.
Et donc elle révèle le passé de bébé Yoda, son nom,
oui.
Puis c'est à peu près tout pour
qui
l'instant.
Qui est Grogu. J'arrive pas à m'y faire, je trouve pas ça terrible.
Je trouve ça marrant.
Mais bon, oui, c'est ça, c'est marrant. C'est pas... va pas y avoir des masses d'enfants qui vont être appelés Grogu dans les années 2020-2021, quoi.
Chiche. Je suis sûre que les gens vont nous surprendre.
Pour préciser, là on tourne avant que la saison 2 de la série se termine. Du coup, on ne sait pas si on va la revoir encore.
Oui, il reste 2 épisodes.
Enfin, pas dans cette saison, je veux dire. Moi, je pense que c'est sûr qu'on va la revoir hein, dans la série, mais pas dans cette saison.
Eh ben, en fait, la construction de la première saison, c'était... On fait 7 épisodes avec plein de trucs qui n'ont rien à voir. Et d'un coup, pour le final, on va revoir tous les gens des épisodes précédents pour trouver de l'aide. Donc, il est possible qu'on la revoie, je trouve.
Ouais, mais... Non, il n'y avait pas vraiment tout le monde, hein, je suis pas d'accord.
Non, il n'y a pas tout le monde.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnages importants qui avaient été introduits et qui n'ont pas été réutilisés du tout dans la même saison. Tu vois. Du coup, Et puis là, cette saison-là, elle a une structure assez différente.
Oui. Il y a un truc qui me vient sur la relation entre Ahsoka et Bo-Katan. Deux choses. C'est qu'elles se rencontrent pour la première fois pendant Clone Wars. Elles sont toutes les deux assez jeunes, Bo-Katan et la petite sœur. Rebelle de la...
Duchesse Satine.
De la Duchesse Satine, qui dirige la planète Mandalore. Et Ahsoka, elle doit avoir une quinzaine d'années. Il y a un moment un peu particulier qui se passe sur... Enfin, dans un monde où il fait froid. Bref, peu importe. J'ai l'image bien vive en tête d'un moment où Ahsoka dit un truc. Et pour toute réponse, Bo-Katan met la main au cul à Ahsoka. Vas-y, tu dis des conneries. Et elle lui met une claque sur la fesse. Et assez pour que Ahsoka fasse un pas en avant, quoi.
Little skinny, isn't she?
Donc ça, c'est un des derniers moments où elle se voit avant de se retrouver à la fin de Clone Wars. À la fin de Clone Wars, Bo-Katan vient l'appeler à l'aide parce qu'elle sait pas quoi faire et vraiment, elles ont un lien très fort. Ahsoka lui libère sa planète.
Goodbye, Ahsoka Tano.
Et là, maintenant, Bo-Katan envoie quelqu'un à Ahsoka parce que c'est la seule Jedi qu'elle connaisse. Et... Un truc particulier, c'est que Bo-Katan et Ahsoka sont encore en contact. Ça fait pas longtemps qu'elles se sont parlé. Quand Bo-Katan envoie Din Djarin chercher Ahsoka sur la planète machin, c'est pas là où Ahsoka habite.
Non.
Ahsoka est là pour régler un problème, mais elle vient d'arriver en fait.
Ouais, totalement d'accord.
Donc elles sont en contact régulier. Donc je veux pas dire tout de suite, ouais, elles sont ensemble, mais c'est bien de pouvoir entretenir la possibilité.
Non, disons que tu mets toutes les pièces sur la table.
Exactement.
Pour une
tu le dis pas tout de suite, tu le gardes pour la fin.
Une éventuelle future enquête.
Exactement. On voit Ahsoka, on la voit adulte, on la voit être super puissante, on la voit combattre avec les mêmes sabres que dans Rebels. Pour clore sur l'épisode, est-ce qu'on raconte plus de choses sur l'épisode ou pas?
Non, je pense pas.
Ok.
I didn't finish the job.
No.
Alors, comment est-ce que vous avez découvert ce personnage et pourquoi vous y êtes attaché à ce point-là, en fait?
En gros, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé pour faire un hors-série sur ce personnage?
He's formed a strong attachment to you.
Moi, je sais que je l'ai découvert par hasard à la télé, quand je zappais entre les chaînes Disney de mon bouquet Canal+, voilà. Canal satellite plutôt. Tu tombes par hasard dessus. C'est bizarre parce que d'un coup, t'as une esthétique Star Wars un peu différente à la télé, là, que tu reconnais pas parce que tu es habitué au film. Et puis en plus, là, il y a une petite zouze avec Anakin, que tu sais pas qui c'est. Et puis c'est intriguant. Et puis au fur et à mesure, bah, tu te donnes rendez-vous pour regarder tous les épisodes. Et c'est trop bien. Et si je l'aime autant... Bon, je l'aimais déjà pas mal quand je l'avais découvert. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé à partir de Rebels.
Ouais.
Parce que le fait qu'elle réapparaisse dans Rebels, ça, c'était un truc de dingue. Quand j'avais arrêté de regarder Clone Wars, parce que ça s'était arrêté. Voilà, ça y est, c'était un personnage qui... J'avais fini avec. Et là, le fait qu'ils réapparaissent, du coup, bah, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, mais finalement, en fait, son histoire, elle n'est pas du tout finie. Et ça tombe bien, parce que n'empêche, je l'aimais bien. Donc si son histoire, elle continue, bah, je vais m'intéresser de plus en plus à elle. Et donc, c'est un cercle vertueux d'attachement au personnage. On l'a déjà dit, quand on est trans, c'est marrant de voir un personnage grandir comme ça. Et on voit un personnage qui a plusieurs glow-up. À la fois dans Clone Wars, parce qu'elle passe de toute petite gamine à ado, ado un peu plus âgé. Et puis dans Rebels, boum, c'est une adulte. À la fin de Rebels, c'est une adulte encore plus mature. Et puis là, dans Mandalorian, c'est la figure du sage, mais au féminin, c'est trop bien. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour moi.
Et toi, Po ?
Eh bien, moi, bon, je pense que j'ai découvert le personnage parce que j'ai regardé les séries animées Star Wars avec Jenna au moment où les films, la dernière trilogie Star Wars est sortie au cinéma. J'avais très envie de les voir parce que, en fait, j'avais vu un trailer et c'était incroyable. Il y avait un personnage féminin central, il y avait des scènes de combat qui avaient l'air super bien. Enfin, ça n'était pas du tout raccord avec ce que j'avais comme souvenir des vieux films, parce que mes parents étaient fans de la première trilogie et mes frères étaient fans de la deuxième. Et dans un cas comme dans l'autre, j'avais regardé de loin, mais c'était vraiment pas... Enfin, ça m'avait pas captivé, voilà. Et donc, quand la dernière trilogie est sortie, enfin, quand ils ont commencé à faire de la pub pour le premier film de la dernière trilogie, je me suis dit qu'il fallait que je revoie les trilogies d'avant pour avoir au moins le scénar en tête. Et comme je fais ça bien et que Jenna et moi, on est parfois un peu perfectionnistes, j'ai aussi regardé du coup les séries animées pour avoir les histoires entre. Et c'est là que j'ai découvert le personnage d'Ahsoka Tano. Et ben, j'aime bien ce personnage parce qu'elle est badass, parce qu'elle est super élégante quand elle se bat et qu'elle est intelligente. Et... Enfin, en gros, voilà pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus des personnages comme ça. Voilà.
Et toi, Jenna ?
Eh ben, j'ai fait un long blocage, en fait, sur Clone Wars, parce que il y a eu deux œuvres qui s'appellent Clone Wars. Il y a eu d'abord un long-métrage qui s'appelait The Clone Wars, avec un design très série animée des années 90, très anguleux, très laid. Enfin, pardon. Pas très joli. Ah, c'est pas vrai. Bref, qui ne me plaisait pas des masses. Et qui était vraiment axé pour enfants, des épisodes assez courts, et vraiment sur juste la guerre, quoi. Très peu d'écriture pour approfondir les personnages. Et du coup, quand la série Clone Wars est sortie, ben, je ne l'ai pas remarqué. Parce que pour moi, c'était juste la suite d'un truc nul. Et je l'avais mis de côté en me disant, un jour, par exhaustivité, je la regarderai. Et un jour, par exhaustivité, je l'ai regardé. Et je me suis rendu compte de mon erreur, que dans mes téléchargements, je les avais rangés par erreur dans le même dossier. Et donc j'ai commencé à regarder. Ahsoka était intéressante sans plus dans le long métrage. Mais je l'ai trouvée attachante au fur et à mesure. Et je sais pas si on peut dater exactement, mais il y a quelques moments qui me viennent en tête. Il y a un moment où elle est enlevée par des chasseurs de primes dans la série Clone Wars. Et elle est enlevée pour un groupe mafieux qui organise des chasses privées. Et le fait d'avoir des padawans, c'est un peu la proie ultime pour les gens qui s'amusent à chasser des proies compliquées. Et elle se retrouve sur une planète avec d'autres padawans et avec des gens à leur trousse qui, eux, sont armés et les padawans sont pas armés. Et elle prend la responsabilité du groupe et elle les tire d'affaires. Et pendant tout ce temps-là, en parallèle, il y a Anakin qui est terrorisé de la perdre. On sent bien que, contrairement aux autres maîtres Jedi par rapport à leur padawan, il est pas du tout prêt à aborder ou son émancipation ou sa mort. Il est beaucoup trop impliqué émotionnellement. Et on commence à voir un peu ce côté-là d'Anakin. Et quand Il peut pas l'aider parce qu'il sait pas où elle est. Et elle s'en tire, seule. Et elle quitte cette planète, elle sauve les Padawans. Et elle retrouve son maître. C'est elle qui se retrouve dans la position de rassurer Anakin. Il est désolé de pas avoir pu l'aider. Et elle lui répond, bien sûr que si, tu m'as aidé. C'est toi qui m'as enseigné. Et c'est grâce à ton enseignement que j'ai survécu. Et j'ai non seulement survécu, mais j'ai pu aider les autres. J'ai pu sauver les autres. Et merci. Et il lui répond, je t'en prie, you're welcome, my Padawan.
You already did everything you could. Everything you had to do. When I was out there, alone, all I had was your training and the lessons you taught me. And because of you, I did survive. And not only that, I was able to lead others to survive as well.
I don't know what to say.
I do. Thank you, Master.
You're welcome, my Padawan.
Et là aussi, c'est un moment qui est super émouvant pour moi à l'époque et pour moi maintenant juste à le raconter. Alors, je suis en train de récupérer une voix d'adulte, donc je suis en train de muer pendant l'épisode, c'est formidable. Aussi parce que j'ai les larmes aux yeux. Et puis ce qu'on a déjà raconté sur le départ d'Ahsoka et comment on la retrouve dans Rebels, tous ces moments-là, c'est un empilement de moments qui fait un attachement envers un personnage sur toute une vie en fait. Et un personnage qui est non seulement badass, qui est non seulement fort, mais qui est juste, qui est toujours, qui a envie de protéger les autres, qui est là pour défendre les autres. Et je trouve que comme modèle, c'est un très bel idéal en fait. Pour s'identifier, c'est pas juste une héroïne, il y a vraiment un personnage avec une humanité, pas au sens espèce, mais avec une profondeur, avec une histoire, et voilà pourquoi j'aime ce personnage. Pour préparer l'épisode, j'ai traduit un texte d'une autrice qui s'appelle Julie Munsi, qui est une journaliste, qui parle d'Ahsoka. Le texte est en anglais, mais j'ai préparé une traduction parce que mon accent, c'est déjà pas top, mais alors avec cette voix-là, je pense que voilà. Et je pense que ça complète bien ce que tous les trois on a dit sur le personnage. On verra ce qu'on garde.
Ouais.
Éloge de la croissance d'Ahsoka Tano, l'héroïne de Star Wars dont j'ai toujours eu besoin. Mon moment préféré avec Ahsoka Tano est la deuxième saison de Star Wars Rebels. Kanan et Ezra sont poursuivis par deux des inquisiteurs de l'Empire, des utilisateurs de la Force formés par Vader lui-même pour traquer et éliminer les Jedi restants. Avec une efficacité brutale, les deux méchants abattent le jeune Jedi, plaçant Kanan et Ezra à leur merci en quelques secondes. Puis, une porte derrière le Jedi s'ouvre et Ahsoka apparaît. Ça fait plus d'une décennie qu'elle a pris sa décision de quitter l'ordre Jedi. Elle sort, baignée de lumière, mais pas avec la sérénité de la brise printanière d'un Jedi classique. Au-delà de ça, il y a un sombre ensemble de détermination sur son visage, un soupçon de colère même, alors qu'elle jauge les inquisiteurs. Elle est prête pour le combat. Et puis avec deux sabres d'un blanc pur, elle les démonte. Ahsoka se bat presque distraitement, dominant chaque instant du duel à deux contre une avec précision, grâce et un soupçon d'ego bien mérité. Ahsoka Tano est l'une des dernières d'une ancienne tradition et elle est ici à une époque plus sombre pour montrer à ses ennemis à quoi ça ressemble le vrai pouvoir. Je ne sais pas quand je suis devenue fan d'Ahsoka Tano. C'était dans Clone Wars, certainement. Et comme beaucoup de gens, je suis sortie de cette série en pensant qu'elle était probablement la création la plus convaincante de Dave Filoni. J'ai déjà écrit sur l'excellence de sa représentation dans cette série, sur la manière dont elle l'a construite en tant qu'héroïne intelligente et forte, en constante croissance, dans une évolution cohérente avec l'expansion de la mythologie de Star Wars elle-même. Ahsoka est à la fois l'idéalisme et le cynisme de l'ère prequel, enveloppée dans une jeune héroïne audacieuse, et ses succès et ses échecs rendent la chute de son maître Anakin Skywalker à la fois plus tragique et plus inévitable. Ainsi, quand Ahsoka a été révélée comme l'informateur rebelle Fulcrum dans la première saison de Star Wars Rebels, en validation d'une théorie des premiers fans, j'étais ravie. Mais ensuite, quelque chose de surprenant s'est produit. Au cours du reste de la série, À mesure que l'âge adulte d'Ahsoka devenait plus clair et que son histoire se prolongeait, ma relation au personnage a changé. Je n'étais plus juste une fan. Ahsoka Tano était devenue l'un de mes personnages préférés dans la fiction, tout confondu. Et je me suis rendu compte à quel point elle comptait, soudainement, pour moi. Une partie de cela est une question de timing. À l'été 2016, au milieu des 4 saisons de Rebels, j'ai fait mon coming out trans et j'ai commencé à vivre en tant que femme. Ça a eu un effet intéressant sur ma relation avec mes médias préférés. Pour la première fois, je me suis sentie libre de m'identifier publiquement et activement aux femmes dans la fiction. C'était à cet égard comme être à nouveau enfant. Alors que je cherchais à me comprendre et à me redéfinir, les histoires qui m'intéressaient étaient là pour m'aider à comprendre qui j'étais. Pas exactement comme des idoles à imiter, plutôt comme des partenaires de conversation, des exemples avec lesquels je pourrais dialoguer et réfléchir en repensant presque tout sur moi-même. Et là, dans cette transformation, commodément, se trouvait Ahsoka, avec son arc majeur dans Rebels, qui venait se terminer dans les épisodes Twilight of the Apprentice, à la fin de la saison 2. Elle était là, au bon moment, un personnage intéressant, dans une série intéressante, juste au moment où je me redéfinissais. Sa croissance et ses conflits me semblaient personnels. Ces connexions personnelles n'auraient pas été possibles si le développement du personnage d'Ahsoka n'avait pas été aussi complet ou satisfaisant. La femme adulte qui émerge dans Rebels est une maturation de son personnage à tous les niveaux, une croissance qui la transforme en l'un des héros les plus convaincants de toute la série. Cette Ahsoka adulte est une force pour le bien qui n'a jamais cessé de se battre pour ce en quoi elle croyait, peu importe la gravité des circonstances. Comme l'a révélé le roman de E.K. Johnston et évoqué dans Rebels, elle fait partie de l'Alliance Rebel depuis le tout début, planifiant ses opérations et aidant ses premières cellules isolées. Elle le fait lorsque tous les autres utilisateurs connus de la Force sont en exil ou simplement vaincus. Quand ses pères et ses professeurs attendent un nouvel espoir ou avaient simplement abandonné, Ahsoka se bat sans avoir besoin de cet espoir, parce qu'elle croit qu'il faut essayer de rendre la galaxie meilleure. Parce que c'est la bonne chose à faire. Ce faisant, elle acquiert la sagesse et la grâce en dehors des structures de l'ordre Jedi. Ahsoka émerge dans Rebels en tant que sage guerrière iconoclaste, guidant une nouvelle génération de héros, tout en vivant un credo qu'elle s'est créé pour elle-même, à partir de l'épave de la trahison des Jedi dans The Clone Wars et la chute de la République. C'est cette indépendance rebelle, cette presque fierté, qui rend Ahsoka si convaincante pour moi. C'est quelqu'un qui rejette le chemin tracé devant elle et qui se reconstruit. Elle fait paraître les choses faciles, en plus. Et elle le fait tout en évitant le destin tragique que presque tout le monde pensait inévitable pour un personnage présenté comme la Padawan d'Anakin Skywalker. Il y a probablement beaucoup à admirer là-bas et quelque chose à imiter dans mon propre voyage. Star Wars a besoin de plus de personnages comme elle. Beaucoup d'histoires ont besoin de ça. Mon autre moment, Ahsoka préféré, est pendant Twilight of the Apprentice. Elle tient tête à Darth Vader. Elle a du mal à accepter qu'il est son ancien maître. Elle l'interpelle et il répond qu'il a détruit Anakin Skywalker. Ahsoka se prépare au combat, son visage plein de chagrin et de fureur, et elle dit qu'elle vengera sa mort. Vader rétorque que la vengeance n'est pas la voie des Jedi. « Je ne suis pas Jedi !» lance Ahsoka. Et elle ne l'est pas. Et je pense qu'elle est quelque chose de vraiment mieux.
« Anakin Skywalker was weak. I destroyed him. »«
Then I will avenge his death. »«
Revenge is not the Jedi way. »«
I am no Jedi. »
Voilà, ce texte m'avait beaucoup touchée quand je l'ai découvert pour la première fois. Et ça le rend intense et très personnel de travailler dessus et de le lire en français. Parce que je pourrais vraiment reprendre à mon compte l'essentiel de ce texte. Parce que ma transition a eu lieu à peu près en même temps. Et voilà.
Bah, c'est un super texte. Tu l'as très bien traduit.
C'est gentil. Et toi, Pauline ?
C'est un très beau texte. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que cette personne a écrit parce que elle a l'air d'être une bonne journaliste et d'avoir des bons goûts. Donc.
Elle s'appelle Julie Munsi et oui, je recommande. On mettra le lien dans les notes. Je pense que c'est une très bonne transition. No pun intended.
Bien sûr que si, elle est intended.
Pas complètement intended. Pour dire à quel point on aime ce personnage et pourquoi c'est important pour nous de parler d'Ahsoka Tano aujourd'hui, c'est que dans Mandalorian, elle est jouée pour la première fois par une humaine. Parce que jusque-là, c'était un personnage de dessin animé ou un personnage de roman. Dans les dessins animés et dans l'audiobook, elle est lue par Ashley Eckstein, qui est une petite blonde mutine qui est fun et qui est une humaine très chouette, qui est vraiment fan de son personnage, dont les fans espéraient beaucoup qu'elle pourrait un jour reprendre ce personnage à l'écran. Et elle aussi, elle espérait beaucoup.
C'est elle qui fait sa voix aussi dans l'épisode 9, à la fin.
Ouais. Mais voilà, elle n'est pas particulièrement taillée pour jouer ce personnage adulte. Et du coup, quelqu'un d'autre a été choisi. Et cette autre personne, c'est Rosario Dawson, qui est une actrice qui a déjà joué dans plein de choses, qui a eu des récompenses pour plein de choses, qui est particulièrement badass en tant que telle, c'est-à-dire elle a joué des boxeuses, elle a joué des fighters. Donc en tant qu'actrice, je pense qu'elle a prouvé qu'elle pouvait faire un personnage comme ça.
Badass à ce moment-là, c'est donc badass physiquement, on ne parle pas de la droiture morale.
Bah, a priori, oui, c'est un jeu d'acteur. On n'a pas besoin, de toute façon, de quelqu'un qui...
Spoilers.
Voilà. On n'a pas particulièrement besoin de quelqu'un qui a fait l'Académie Jedi pour jouer dans Star Wars. Hein. Ça tombe bien. Mais, qui vont gêner ?
Nilean.
Bah, du coup, Rosario Dawson, il y a une sale affaire, ou deux, qui la suivent. Des affaires de transphobie. Je pense que c'est une mauvaise idée de les détailler là. Par contre, il faut savoir qu'elles existent. Et on peut aussi dire d'emblée deux choses. Ça brise le cœur. Et du coup, l'affaire en justice, je crois que ça a été abandonné, etc. Sauf que ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas avéré. Et surtout, on va croire nos camarades trans. Tout simplement, on s'en fout du reste.
Ouais. Clairement, dans la construction d'un podcast trans, il y a quelque chose qui est important pour nous. C'est de rester positif et positive. Et de parler d'optimisme et du coup de ne pas rentrer dans les détails d'agression transphobe, ça me semble bien.
Exact.
Peut-être on peut rappeler le nom de la personne qui a eu le courage de parler de ce qui lui est arrivé.
Bien sûr.
C'est un homme trans qui s'appelle Dedrick Finlay. Et je parle de courage parce que, qui que soit l'agresseur, c'est toujours dur de parler d'une agression qu'on a subie. Plus particulièrement quand c'est une personne qui a autant d'argent et de pouvoir et de reconnaissance mondiale. Donc voilà.
Exact. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que là, on a passé beaucoup de temps déjà à raconter et à parler entre nous d'à quel point on adore le personnage, à quel point il est important pour nous. Puis soudain, c'est cette personne-là qui l'incarne à l'écran.
Ouais.
Je pense qu'on peut chacun et chacune dire ce qu'on en pense à notre tour. Je pense que directement, je pense qu'il faut répéter et répéter encore que c'est normal que ça fasse chier. C'est normal que ça fasse chier. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se dire que du coup, ça remet en cause tout ce qu'on aime sur le personnage et tout. Moi, je dis que non, parce que tout ce qu'on aime sur le personnage précède l'actrice. Donc oui. Évidemment que non. Et donc c'est pour ça que à ceux qui vont nous dire ça, rappeler que c'est normal d'avoir kiffé le personnage et que maintenant, ça nous fasse bien chier.
Ouais.
Voilà. Et dans le même temps, tu vois, The Mandalorian, j'aime beaucoup la série. Et elle va continuer, je vais continuer à beaucoup l'aimer. Et je crois que quand on est trans, je pense qu'on peut se réserver le droit de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que...
Tout à fait.
C'est-à-dire que ça nous fait chier, mais genre ça peut pas faire chier des gens plus que nous. Genre vraiment. Et en même temps, on va se réserver le droit de continuer à aimer le personnage. Voilà, parce que je pense qu'on le mérite. Cependant, on peut continuer à aimer le personnage... tout en rappelant sans cesse et sans cesse que ça nous emmerde, que ce soit cette zouze qui l'incarne à l'écran.
Moi, je trouve que c'est la deuxième actrice qui joue Ahsoka. Et ça veut dire qu'elle peut très bien être jouée par quelqu'un d'autre encore plus tard. Et du coup, Ahsoka, le personnage d'Ahsoka n'est pas défini par le fait d'être joué par Rosario Dawson. Et pour moi, c'est différent, par exemple, de si je m'étais investi émotionnellement avec le personnage de Cara Dune, qui est un personnage de Mandalorian, qui est un personnage badass, qui est un personnage cool à l'écran. Mais elle est jouée par une femme qui semble être supporteuse de Trump, qui milite contre les masques, qui semble dire des trucs un peu transphobes, enfin voilà, qui est plutôt du mauvais côté de la force. Et le personnage de Cara Dune, il a été développé parce qu'on avait trouvé cette actrice et qu'on avait envie d'avoir un personnage qui était joué par une championne de catch. Le personnage de Cara Dune, il n'a pas d'existence à l'extérieur de cette actrice. Du coup, ce personnage ne me manquera pas. Je n'ai pas envie qu'Ahsoka me manque. Ahsoka existait avant Rosario Dawson, il existera après. Et je trouve que ce serait malvenu, particulièrement de la part des personnes trans, où on est accusé en permanence de cancel des gens pour rien. Je pense que c'est important qu'on cancel les gens qu'on veut.
C'est ça.
Et on va pas cancel un personnage parce qu'il est joué par quelqu'un d'autre. Ahsoka n'y est pour rien. Enfin là, on est encore... Moi, en ce qui me concerne, je porte encore le deuil d'Harry Potter. Je porte le deuil d'un univers entier. Et là, il s'agit pas de, par exemple, distinguer l'artiste de l'œuvre ou quelque chose de ce coup-là. Là, on est en train de distinguer un personnage de l'actrice et le personnage est pour rien. Alors qu'en ce qui concerne Harry Potter, non seulement la créatrice a prouvé que, on va dire, c'est pas une alliée des personnes trans, parce qu'on a dit qu'on restait positive.
Mais qu'elle a construit tout son univers en conséquence de, voilà, de tout ce qu'elle peut penser.
De ses positions, effectivement, qu'une fois qu'on analyse l'univers qu'elle a construit, c'est un univers qui est construit sur des bases essentialistes, racistes, transphobes, homophobes. C'est un univers où il est normal que ce qu'on est à la naissance définisse le reste de ta vie. Donc je comprends, pour l'avoir vécu, comment on peut être à ce point investi dans l'univers d'Harry Potter. Et encore maintenant, je pense que c'est important de ne pas faire d'injonction d'abandonner ça pour les personnes, et notamment les personnes trans qui arrivent à être encore fans d'Harry Potter. Je veux dire, force à vous et contactez-moi, j'ai des trucs à vous donner. Mais voilà, il n'est pas question d'abandonner Ahsoka.
Nilean, t'avais quelque chose à dire en plus sur Ahsoka ?
Ouais, juste compléter... Du coup, Jenna et moi, on se rejoint. De la même manière, il y a des personnes trans qui veulent réagir différemment. Et ben oui, là, pareil, pas d'injonction à faire, parce que genre, je répète, nous, on est bien les seuls à avoir le droit de faire ce qu'on veut là-dessus.
De manière individuelle, voilà, pas en tant que communauté, voilà. Mais de manière personnelle.
Voilà, c'est ça, on gère les choses comme on peut, tant de s'en rappeler.
Ben, j'ai vu des personnes sur Twitter qui, notamment des personnes trans, qui disaient, voilà, je suis triste que... Rosario Dawson soit castée, et du coup, je regarderai plus Mandalorian. Et du coup, je demande à ce que Mandalorian soit arrêté, et du coup, je peux plus regarder Ahsoka, même dans les autres œuvres. Je suis désolée pour ces personnes-là, mais on doit les soutenir aussi, en fait. Parce que c'est pour elles que c'est le plus dur. On va pas en plus les engueuler, ou leur dire « Non, vas-y, il faut que tu surmontes le truc. Vas-y, si tu dois suivre une injonction à surmonter ça, bah, tu dois continuer à... Bah, surmonter tes trucs et à supporter Harry Potter, quoi. Enfin, c'est important d'être cohérent là-dessus.
Pauline, du coup
Alors, si vous avez fini avec les trucs sérieux... Moi, j'ai un truc moins sérieux, mais qui, du coup, apporte une petite saveur fun à cette histoire.
Alors, j'écoute.
Voilà, donc la manière dont je gère les émotions, et particulièrement les émotions désagréables, c'est de rationaliser. Ma psy dit que parfois, du coup, je suis trop loin de mes émotions, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, pour... le problème que représente Rosario Dawson, qui est une personne transphobe, qui joue un personnage que j'aime bien, j'en suis arrivée à une rationalisation très logique, basée sur un détail, mais c'est les détails qui font toute la saveur. Le détail qui est que dans le lore de Star Wars, dans les règles de l'univers Star Wars, les Togruta, donc, qui sont l'espèce d'Ahsoka Tano, ont des... ce que Jenna appelait...
Le Leiko.
Alors, plusieurs fois, t'as dit la coiffe, mais en fait, c'est pas une coiffe. C'est une partie de la tête de ces individus. Et donc, les Leiku sont une marque genrée dans l'apparence physique des Togruta. Parce que les Leiku masculins sont plus courts que les Leiku féminins.
Exact.
Et
il y a une autre Jedi qui est de la même espèce qu'Ahsoka. J'ai plus son nom en tête. Je sais qu'elle meurt pendant l'épisode 3. Et je crois qu'elle meurt hors champ. Mais elle a des très jolis maquillages, enfin des très jolies marques sur le visage. Et des très grands yeux. Et un laïkou qui est très long.
Pour revenir à Ahsoka.
Je crois que je sais où on vient. Je crois que je sais.
Voilà. Attention, les personnes qui ont remarqué des détails sont en train déjà de se frotter les mains, je suppose. Donc au début, pour Ahsoka, dans Clone Wars, son laïkou est petit, parce que c'est un laïkou de jeune personne. Et au cours de son évolution, le laïkou grandit, jusqu'à atteindre la taille assez longue qu'on voit dans Rebelle.
Et dans l'épilogue, ils sont même très très longs.
Même sans parler de l'épilogue, parce que à la limite, on peut se dire l'épilogue, est-ce que c'est avant, après ? Il peut y avoir un problème de chronologie. Même juste dans les épisodes de Rebelle, tu vois.
Oui.
Il est assez long. C'est un laïkou, on va dire, de Togruta, féminin, mais adulte. Et le laïkou qu'on voit sur la tête de Rosario Dawson dans la série de Mandalorian est plus petit que celui de la version animée d'Ahsoka dans Rebelle. Donc, si on a bien suivi la chronologie, le laïkou a rétréci. Alors, on peut évidemment expliquer ça par le besoin d'avoir des prosthétiques faciles à porter, ou particulièrement pour un personnage avec des scènes de combat qui sont chorégraphiées, pas faciles et tout. Et puis il y a les limites de l'action filmée versus l'animation, tout ça. Mais il y a une façon un peu plus satisfaisante de voir les choses, qui est que, alors c'est mon headcanon personnel, donc je ne demande pas aux autres de penser la même chose, mais Dave Filoni, pour moi, a donné un personnage montrant des signes physiques de transition de genre à une actrice transphobe, sans qu'elle le réalise. Et du coup, je peux regarder la série en ayant le sourire aux lèvres.
C'est tellement parfait! Ça fait tellement du bien d'entendre un truc comme ça.
Voilà.
Bien sûr.
C'est tout, j'avais juste ça à dire.
De manière générale, il faut reconnaître que la représentation LGBT dans Star Wars n'est pas particulièrement brillante. Vu que jusque-là, on a un couple de lesbiennes qui s'embrassent dans le fond de l'épisode 9. Et un personnage non-binaire dans un roman de Chuck Wendig. Si on pouvait avoir qu'en plus, Ahsoka est une personne trans, je pense qu'on pourrait dire qu'on l'a méritait.
T'imagines le reveal de... Enfin, pardon, la révélation à la fin de la série de Mandalorian, si on doit montrer explicitement à l'écran qu'Ahsoka est trans. Rosario Dawson doit quand même faire la gueule, j'imagine.
Tiens, un truc simple, genre... Oh mon dieu, comment avez-vous survécu? Mais c'est Ahsoka, elle vient de me sauver. Et là, Ahsoka répond... Il.
D'ailleurs, je dois filer faire mon injec.
Là, d'un coup, on se sent mieux, hein?
Oh, tellement! Merci beaucoup. Et merci à Neil et Anne aussi d'avoir participé à cet épisode. Et puis merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Parce que clairement, on avait des choses à dire, à la fois sur Star Wars et sur Ahsoka Tano. Et je suis certaine que vous n'aurez pas tout entendu, qu'on va essayer de le limiter au montage. Mais là, on en a 1h30. On va voir combien vous avez. Et puis voilà, on se retrouvera pour le vrai épisode 3. On essaiera avant Noël, mais pas de promesse.
On va dire... vers Noël.
Ce sera un très beau cadeau de Noël.
C'est ça, ça peut être un bon épisode de Noël pour célébrer la fin de l'année et pour les personnes qui sont... qui ont besoin d'un petit pick-me-up, parce que les fêtes de Noël, ça peut parfois...
Ou un cadeau de Nouvel An. Moi, j'essaye de me donner de la marge, là.
Ah oui, d'accord.
Qui auront besoin d'un moment de convivialité trans après avoir dû supporter nos familles.
Il y a la galette des rois, hein, après, si tu veux. Si t'as besoin de...
Ouais, mais on peut pousser jusqu'à la Saint-Valentin, s'il le faut. On fera un épisode de Chandler à part.
Chandler Bing.
Ah, oh, mais il y a des choses à dire, hein.
Ah, il y a des choses à dire sur
ça, c'est un autre hors série.
Ah oui, alors là, à la prochaine pour l'épisode sur Chandler Bing.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Un podcast trans est une création de Neil et Anne, Kat, Jenna, Malé, Mary, Pauline et Tiffen. Ce hors série a été enregistré le 6 novembre 2020 et édité par Jen. Retrouvez-nous sur Twitter, @unpodcasttrans, et sur le site unpct.fr. Merci. Et toi?
Moi, c'est juste que j'aime bien les personnages badass.